Il est 17h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Kim Lacaille. Et Kim, on a eu des nouvelles finalement, ce sont des blessures majeures pour l'enfant qui a été happé il y a quelques semaines là, à Maniwaki.
Oui, Patrick Roussel, l'enfant de 12 ans qui a été happé par un camion à Maniwaki, vit présentement avec des séquelles majeures à la suite de l'accident. Il demeure hospitalisé à l'hôpital pour enfants de l'Ontario, le CHIO, où il repose dans un état stable. Selon les informations de la mère, le jeune homme aurait subi une fracture au crâne, un caillot se serait formé au cerveau et il aurait 3 côtes fracturées. Il aurait aussi perdu la mobilité et la vue de son côté droit. Sa vision du côté gauche aurait diminué de 50 %. Pour ces raisons, Patrick doit se déplacer en fauteuil roulant. Hier, le garçon a été informé qu'il devra quitter l'hôpital d'ici jeudi en raison de maladies contagieuses qui se propageraient dans l'édifice. Le personnel médical a donc décidé qu'il était mieux pour lui de retourner à la maison. Son état et les progrès constatés depuis l'accident permettent à Patrick de retrouver son chez-soi tout en ayant des équipements adaptés à sa disposition et en poursuivant ses traitements actuels. Ce dernier compte mettre les efforts nécessaires afin de se rétablir à temps pour la rentrée scolaire. Entre-temps, il souhaitait faire passer un message aux usagers de la route. Écoutons la mère de Patrick, Shana Lamotte-Saumur.
Les enfants, on ne sait jamais comment ils vont rouler ou pédaler ou qu'ils vont se déplacer dans les rues. C'est peut-être de porter une attention un peu plus particulière quand on voit des enfants sur le chemin. Ce serait son souhait le plus cher qu'il n'y ait pas un autre enfant qui passe par là.
Une campagne de socio-financement a été mise en ligne afin d'amasser des fonds pour l'achat d'équipements adaptés pour Patrick notamment. Jusqu'à présent, ce sont 1 105 $ qui ont été amassés sur un objectif de 5 000 $.
On parle maintenant du projet Gigaville, le prévu à délayage, qui serait le premier sur la liste pour obtenir les mégawatts nécessaires à son établissement.
Oui, le projet est toujours sur la table et est toujours en attente de savoir si les mégawatts nécessaires seront disponibles pour la réalisation du projet qui doit se faire à Déléage. La mairesse et la directrice générale de Déléage, Anne Potvin et Joanne Poulain, se sont entretenues avec Perry Kotsopoulos, directeur de Carla Group. Celui-ci a affirmé que Gigaville était le premier en liste pour obtenir les mégawatts.
La dernière rencontre qu'on a eue avec l'investisseur Perry, Hydro nous a confirmé qu'on était les premiers sur la ligne. Voilà ce qu'ils vont donner, les mégawatts. C'est juste d'attendre quand est-ce qu'ils vont les donner. Parce que, tu sais, c'est la Régie des ressources et de l'énergie qui gère ça. C'est comme un peu un gouvernement, là. Puis c'est eux autres qui vont décider quand est-ce qu'on les donne.
CAGA FM a contacté Hydro-Québec afin de confirmer l'information. Le porte-parole nous a indiqué être dans l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer cette information. Il s'agit d'une information confidentielle qui demeure au dossier du client. En revanche, si l'on se fie à M. Kotsopoulos, le dossier devrait être réglé avant la fin de l'année, comme le confirme Anne Potvin.
Mais au moins, on peut dire qu'on est les premiers sur la ligne, qu'on va les avoir. Perry, quand il est venu ici, il nous a dit que lui, pour lui, avant la fin de l'année, ça va être réglé. Lui, il est vraiment confiant, là. Il est vraiment confiant.
Les promoteurs de Gigaville attendent donc cette réponse d'Hydro-Québec, sans quoi il serait possible qu'ils se retournent vers d'autres marchés afin d'obtenir l'énergie nécessaire au démarrage de l'entreprise. Rappelons que Gigaville est un complexe de haute technologie qui pourrait être implanté à Déléage. Celui-ci représente un investissement de 165 millions de dollars et permettrait de créer entre 50 et 100 emplois dans la région.
On parle maintenant des VTT qui seront permis sur certains chemins éventuellement municipaux à Grand-Remous.
Oui, le conseil municipal de Grand-Remous a adopté un règlement visant à permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. C'est à la suite de la demande du Club Quad Vallée de la Gatineau que la municipalité s'est penchée sur la question. La mairesse Jocelyne Lirette en explique l'enjeu.
C'est vraiment le Club Quad qui ont fait cette demande-là, OK, pour être capable de faire des boucles et de pouvoir réunir chaque région, OK? Que Maniwaki puisse partir puis aller à Déléage, puis le Déléage puisse s'en aller à Aumont, puis Aumont puisse s'en aller à Grand-Remous, OK?
Le chemin municipal visé pour l'instant est le chemin Sainte-Famille. D'autres pourraient s'ajouter avec le temps. Certains citoyens sont inquiets et de comment ça va se dérouler, mais la mairesse se veut rassurante.
Que les gens ne s'inquiètent pas, c'est un projet pilote. Et en même temps, je te dirais que les policiers sont au courant de ce règlement-là. Ce que les policiers nous ont dit, c'est qu'ils vont être vigilants là, par rapport aux VTT, qu'ils vont être obligés de respecter les mêmes règles que les automobilistes. Là.
Le côté positif à ce projet pilote est sans nul doute l'apport économique que cela amène dans la municipalité. Le monde du VTT est populaire et bon nombre d'adeptes trouvent important d'encourager les commerçants locaux. À nouveau, Jocelyne Lirette.
Moi, je te dirais qu'ici, à Grand Remous, là, il n'est pas rare de voir tant l'automne, l'hiver puis le printemps, d'avoir plusieurs quadistes qui sont arrêtés au restaurant pour manger, pour prendre de l'essence. C'est vraiment une activité qui est très primée par nos citoyens, puis par les touristes aussi.
C'est donc officiel, le règlement est désormais en vigueur à Grand Remous. Les VTT peuvent bel et bien circuler sur le chemin Sainte-Famille.